cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 28 septembre 2001 à Saint-Jeudard.
L'autre extrême de la philosophie, c'est ce qu'Aristote appelle la philosophie pratique. Vous voyez, le sommet de la philosophie spéculative, théorétique, il vaut mieux dire théorétique, parce qu'on est obligé de regarder le mot grec, théoria, la contemplation. Le sommet de la philosophie, c'est d'aboutir à prouver que Dieu existe, qu'il existe un être premier, un être parfait, un être intelligent et sage. C'est le sommet. La partie pratique de la philosophie, c'est la philosophie de l'art et la philosophie morale. Vous avez un cours de philosophie de l'art parce que ça devient très nécessaire. C'est une des façons, je crois, pour nous aujourd'hui d'atteindre la jeunesse qui est très prise par le point de vue du facere, de l'activité artistique. Je n'insiste pas, puisque vous avez un cours spécial sur la philosophie de l'art. Et au point de vue pratique, vous avez aussi la philosophie éthique, la philosophie morale. Au fond, en nous, il y a perpétuellement, je dis bien perpétuellement, dans toute la croissance de notre être, une sainte rivalité entre l'art et la morale, entre le facere et l'agere. Je le dis en latin parce que c'est plus net. En français, le facere, c'est l'activité artistique. On réalise quelque chose. Mais activité artistique qui n'est pas celle des beaux-arts, qui peut être uniquement une activité de faire la cuisine. Il faut être un artiste pour faire la cuisine. Si on n'est pas un peu artiste, on n'a qu'à cuire des choux. Et tandis que la cuisine, c'est un art, c'est du facere. Vous avez des matières brutales, un petit cochon, et vous servez d'une façon artistique. En montrant des boudins et en montrant du jambon. La cuisine, c'est un art. C'est un art pratique. Et puis, vous avez l'agere, agir en homme. Agir en homme intelligent, en homme capable de se gouverner, en homme capable de comprendre ses responsabilités, un homme capable de se conduire, en homme capable de s'orienter. Beaucoup d'hommes qui se laissent vivre et qui ne s'orientent pas. Il y a des novices qui se laissent vivre. comme novices, comme des moutons qu'on conduit à l'abattoir. Et il y a des novices qui délibérément se mettent dans un état de petitesse pour arriver à se corriger, la gérer, c'est modifier non pas une matière inerte, le bois qui devient une table, la voix, matière vivante qui se transforme en chant. Ça, c'est le facere, où on travaille une matière. La matière peut être le langage humain, dans la rhétorique. Et la matière peut être quelque chose de tout à fait extérieur à nous. La matière, une matière vivante, une matière brute, le fer, le forgeron travaille le fer. Tandis que l'algérer, c'est se travailler. On se travaille soi-même. On travaille ses capacités d'agir. On est capable de transformer sa vie. De violent qu'on est, de colérique qu'on est, on devient doux. Un novice entre ayant un caractère particulièrement colérique et au bout de quelques années, il se transforme en un homme extrêmement doux. Il y aura de temps en temps des reprises violentes. Le vieil homme meurt en dernier. Et donc, même si on a acquis des vertus, il reste toujours le naturel qui revient au galop. Alors, la morale, c'est l'étude de cette transformation qui se fait en nous. Ce n'est pas faire la cuisine, mais c'est se transformer, devenir un homme capable de se maîtriser. Un homme capable, s'il est très violent, de devenir doux. On se travaille. La philosophie a commencé par la morale, le sage. Les sages, les sept sages grecs, sont des hommes capables de se gouverner, capables de se commander. Et capables de gouverner les autres. D'être chef de bande, chef de commune, chef d'un pays. C'est quelque chose de très radical en nous. Alors, qu'est-ce qui est premier? Je crois que génétiquement, le facere est premier. Je crois. mais très vite, agir vient. Alors, vous voyez, songer à l'éducation. Il y a des moments, et nous sommes dans un de ces moments, où l'adgérer, donc se maîtriser, se dominer, se conduire soi-même, devient très difficile. Et la plupart du temps, il faut l'art, le facere, pour ravir à l'adgérer. Ça, c'est un problème d'éducation. Et il est important. On a Saint Jean éducation, donc on doit y réfléchir. Et c'est l'occasion d'y réfléchir en suivant les cours de philosophie de l'art et en suivant les cours de philosophie de la durée, philosophie morale. L'éducation, c'est de maintenir un équilibre entre le facere et l'agere. On les distingue, mais il ne faut surtout pas les séparer à outrance et de faire uniquement des hommes capables d'être des artistes, mais qui ont un caractère de chien. On ne peut rien leur dire. Que tout de suite, ils sont en colère. Et l'inverse, qui est beaucoup plus rare, surtout à notre époque, des gens qui n'ont aucun sens du facere, qui sont tellement retournés sur eux-mêmes, qu'ils n'ignorent que la jurée. Ça se voit. Ça se voit, ça. Et il y a un équilibre constant. Au fond, c'est le grand équilibre de notre vie pratique. C'est le grand équilibre de la vie commune. La vie commune, c'est politique. Alors, la troisième dimension, adjurer, facere, et puis le point de vue politique communautaire. Aujourd'hui, on dira communautaire. Et c'est vrai, c'est le trépied de base de toute la vie humaine. Toute la vie humaine se fonde là-dessus. Et toute la philosophie commence par une philosophie pratique. Et c'est très important de comprendre ça. Toute la philosophie commence par un point de vue pratique, un sens pratique, mais pratique au très grand sens, pas du pot pratico-pratique, hein, quelque chose qui serait uniquement regarder son activité. Non, pratique, c'est même l'activité politique. L'activité politique, tu pratiques. Et la sagesse politique est une sagesse pratique, c'est une petite sagesse comparativement à la sagesse spéculative, métaphysique. Alors, cette petite sagesse, on l'appelle la prudence, la phronesis. C'est pas la sophia. Il y a les deux mots grecs, phronesis, sophia, deux mots latins. La prudence, c'est la durée. L'art, c'est le facere. C'est une distinction très ancienne, qui, avec Aristote, a pris une très grande netteté. et nous continuons d'y réfléchir, parce que, en quelque sorte, c'est tout l'homme qu'on éduque par le fâcheré et la durée. Et chacun d'entre nous, si nous sommes vraiment conscients avec ce que nous sommes, a une part de fâcheré, même si on n'est pas cuisinier. Mais on a la guitare aujourd'hui, c'est le fâcheré, ça. Et la durée, il est des périodes, du moins des périodes politiques, au point de vue éducation d'un pays, où le fâcheré domine et où la durée est en baisse. Dans notre monde d'aujourd'hui, le fâcheré domine, très nettement. Et la durée continue de marcher en reculant. Ça existe encore, mais il est quelquefois très faible. L'éducation nationale, c'est le fâcheré. Pour faire des hommes capables de faire quelque chose. La durée est très bas. On demande qu'il soit capable d'écouter un cours, ce qui n'est pas commode, et qu'à regarder les réflexions des gens qui enseignent dans les basses classes. Difficulté presque toujours vient de celle-là, tenir sa classe calme, qu'on puisse enseigner. Parce que le fâcheré est tellement développé que c'est sûr que nous vivons un développement du fâcheré très étonnant et l'adjuré très faible. Oui, les derniers événements, je reviens parce que c'est quand même des événements qui nous ont tous secoués. Je ne parle pas des interprétations, je parle de l'événement lui-même. C'est le fâcheré qui semble dominer. Un fâcheré violent, très violent, qui arrive à pouvoir détruire le monde. On peut aujourd'hui détruire le monde. Notre sort est remis entre les mains des hommes. C'est pour ça que ce sont des tremblements de terre extraordinaires. Parce que les tremblements de terre, ça nous dépasse. Les hommes peuvent évidemment les percevoir, mais ça vient du cosmos et ça vient de Dieu. Indirectement, du cosmos. Mais Dieu peut agir directement. Tandis que le monde, aujourd'hui, du fâcheré, c'est les hommes. Dieu peut intervenir si les hommes le demandent. Mais si les hommes ne le demandent pas, les hommes ont entre les mains des capacités de destruction qui sont énormes, au-delà de tout la durée. Donc là on touche, il faut bien comprendre, on touche un problème philosophique de base, qui est fondamental. et qui est immédiatement pratique. Chacun d'entre nous, quand nous réfléchissons sur notre vie, nous devons comprendre comment notre capital vital est mobilisé pour le facturer. Comment notre capital vital est saisi pour l'adjurer. Il y a là une distinction qui reste, qui est très ancienne. Je crois que dans toutes les civilisations, vous le trouvez. Mais le mélange des deux est différent. Et dans toute civilisation, vous trouvez ces deux aspects de faire quelque chose, réaliser quelque chose. Et l'intention, cultiver l'intention avec laquelle on le fera. Si je vais jusqu'au bout, parce qu'il faut aller très loin, cette distinction du fatuéré et de l'adjuré, et comprendre que notre vie, concrètement, est faite des deux. Même au noviciat, si c'est une vie particulière, il y a l'adjuré et le fatuéré. L'adjuré est très souvent très secret. Quelles sont vos intentions profondes ? En entrant au noviciat. Moi, j'ai fait la moitié de mon noviciat avec quelqu'un qui n'avait pas du tout l'intention de faire son noviciat. Simplement voir ce que font ces moines. Curiosité envoyée par la franc-maçonnerie. Il était un novice recommandé par le père général. Est à Rome. Alors, comme il était recommandé par le père général, le père Maître n'a fait aucune enquête. On l'a reçu comme du bon pain. Et au bout de 6 mois qu'il était là, il a dit au père Maître, je vais partir. Le père Maître n'avait pas détecté. Je vais partir. Parce que j'étais venu non pas du tout pour faire des vœux, pas du tout. C'était simplement pour voir si ces gens qui vivaient comme des religieux, comme des moines, comme des novices, comment ils vivaient. Et il disait ça très calmement. Alors on avait bien remarqué certaines choses particulières, qu'il était quelquefois comme un iceberg très glacial. Mais il faisait tout admirablement à l'extérieur. On ne voyait pas qu'il était en réalité comme il était recommandé par le père général. J'ai vu de lui une inclination particulière. Vous voyez, là on voit très bien comment on peut, à l'égard du fatuéré, tromper quelqu'un complètement. Les intentions profondes de l'adjuré était totalement différente d'un novice normal. L'intention de vie et le comportement que vous avez à l'extérieur, la manière de vous dire, surtout avant, ça allait très vite, hein. J'ai connu ce régime-là. Donc, on entre. retrait. On faisait une retraite silencieuse, mais complètement silencieuse. On ne voyait que le Père Maître. Il ne disait pas un seul mot. 10 jours comme ça. Heureusement qu'on avait la Bible avec soi. Puis, au bout de 10 jours, on prenait l'habit. Et on entrait au noviciat. Donc ça allait très vite. Aujourd'hui, on attend, on fait attendre. On ne donne pas la vie tout de suite. Au bout de 10 jours, on le regarde de l'extérieur. On voit mieux quel est le bonhomme qui est là derrière que si on lui donnait tout de suite la vie. La vie, c'est beaucoup, hein. C'est une manière particulière de vivre. Et bon, la vie, tu vas tuer ou de la durée? Posez-vous quelques questions personnelles pour distinguer bien et voir que la distinction du fatuéré et de la durée, au fond, c'est une distinction très subtile, mais très profonde. Le but de... Il faut toujours regarder le but, la finalité. La finalité du fatuéré, c'est la réalisation de quelque chose. La réalisation d'un repas qui soit convenable. C'est ça, faire la cuisine. Parce que si vous faites la cuisine en disant « j'ai une très bonne intention de nourrir tous mes frères et que ce soit très bon », il n'y a aucune espèce de fatuéré. On a une soupe brûlée, on a des repas qui ne sont pas cuits, des pommes de terre non cuites, il n'y a rien de tel. Parce que la cuisson, c'est être forgeron. On caresse le feu. Et on caresse le feu pour des aliments, pour des cuisses de grenouille. Alors, c'est très curieux. Comme l'attrait actuel pour le fatuéré est grand. Et c'est très utile pour nous de comprendre ça. Parce que si on a à éduquer, si on a à saisir des jeunes, il faut savoir quels sont leurs attraits dominants. L'aspect moral, l'aspect de l'éthique est très peu développé. Le dernier livre de Camus est très significatif là-dessus et très intéressant. À ce point de vue-là, le premier homme, l'homme, il avait distingué ça de façon très nette. Et on voyait comment Camus avait changé, alors que le professeur de Camus, celui qui l'avait été d'abord, n'avait pas changé du tout. On le voit par la préface qu'il a donnée. La littérature, à ce point de vue-là, est extrêmement intéressante pour qu'on touche le pouls d'une civilisation. La différence entre les civilisations latines, en Italie, en France, en Espagne. Et les trois sont très différentes. Mais il y a quelque chose de commun. L'éducation anglo-saxonne, qui est différente. L'éducation germanique, voyez, tout le phénomène de la culture, si je l'analyse au point de vue philosophique, le phénomène de la culture, je peux, si je suis suffisamment éduqué, je peux tout de suite le saisir. Le phénomène de l'éducation, de la culture, elle est faite du facere, en premier lieu. Ça, c'est sûr. La culture. Mais elle est faite aussi de la gérer. Et vous avez des cultures, à ce point de vue-là, très différentes les unes des autres. Par rapport à la durée, au plan philosophique, on doit arriver à saisir l'homme, l'homme qui se construit par le facere, par la durée, par l'activité artistique, en prenant activité artistique au sens très très large. L'activité de faire quelque chose, de prendre une matière première et de la transformer. On vous donne une matière première pour faire la cuisine et vous la transformez en un plat mangeable. C'est la première qualité, parce que si c'est uniquement pour la vision, c'est très beau, c'est magnifique, ça séduit, mais ce n'est pas mangeable. Le facere est raté, là. Et puis, la gérée. La gérée, oui. Si vous aviez des thermomètres pour voir le degré dans votre vie du facere et le degré du point de vue moral, ce serait très intéressant. Ça intéresserait beaucoup le permettre. De voir les l'éducation qu'on a reçue, qui a développé énormément le facere. Le facere se manifeste beaucoup, il se voit. La durée, ah, c'est secret, c'est très secret. Vous voyez, ce novice qui était franc-maçon, son adjuré, c'était d'accomplir la mission qu'on lui avait demandée. Il regardait beaucoup et il imitait. Et donc, tout se portait sur l'imitation pour le facturer. Être docile pour qu'on ne le voit pas, qu'on ne le remarque pas. Mais ce n'était pas du tout qu'on ne le remarque pas en raison de chercher l'humilité. Non. C'était tout simplement pour qu'il accomplisse sa mission. Et ça, on ne le voyait pas. Il n'avait pas l'intention du tout de s'éduquer soi-même au point de vue moral. La seule intention, c'était vraiment de pouvoir faire un rapport sérieux, net, sur le sens qu'avait la vie religieuse vue de l'extérieur. C'est vrai, la vie religieuse vue de l'extérieur, quand il s'agit de la vie religieuse vécue par des moines, est très curieuse. C'est pas la vie humaine vécue à plein vent. Vous voyez, l'équilibre du facere et de l'agere. Si nous avons une conscience morale suffisamment développée et qui n'est pas faussée, vous voyez tout de suite, chez certains et pour soi, l'importance de développer la durée. Je ne parle pas du point de vue chrétien. Je parle d'un point de vue uniquement humain. C'est évident que notre vie chrétienne développe avant tout la durée, mais développe aussi le fait durée. Je ne sais pas si ça existe, une cuisine chrétienne. Ce qui existe, c'est une cuisine pour des moines. Tandis qu'un agir chrétien, ça oui. Ça nous aide à mieux comprendre. Qu'est-ce qui est baptisable ? Est-ce que c'est bâtir une maison ? Le faturer ? Ou est-ce que c'est l'intention de vie ? Est baptisable tout ce qui peut devenir chrétien. Ce qui ne peut pas être chrétien n'est pas baptisable. C'est très net. Là, vous allez me dire, il y a un art chrétien. Mais, oui, un art chrétien, grave question. Mais il est chrétien, souvent par l'intention. Et par l'intention de vie, il peut modifier le faturé. Et c'est par l'intention de vie. C'est pas directement l'art qui est chrétien, non. C'est l'artiste qui est chrétien. Et l'artiste qui est profondément chrétien, ça rejaillit sur son art. Comme un artiste qui est profondément humain, où vraiment la question du point de vue moral joue, ça se voit dans son art. Et vous pouvez avoir un art qui n'est absolument pas chrétien et qui est immoral. Donc, l'art peut devenir immoral. L'art immoral, plus ou moins vite, ça se ressentira. Parce que l'art doit être humain. Et l'homme, humainement, est moral. Un homme qui est immoral, c'est contraire à l'humain. Alors, nécessairement, ça se ressentira dans son art. Mais pas tout de suite. C'est extrêmement mystérieux à voir comment le faturé pour acquérir toute sa dimension doit être humain. Et parce qu'il doit être humain, il doit être moral. Alors là, on touche à des problèmes très importants, très intéressants, parce que c'est toujours dans les positions critiques et ultimes que les choses se manifestent. Pas dans les choses intermédiaires. Dans les choses intermédiaires, l'art et la morale, ça se donne la main, plus ou moins. Alors on dit que c'est bourgeois. Ça se tient la main. Tandis que si vous poussez jusqu'au bout l'activité artistique, y a-t-il un art démoniaque ? Vous ne poserez pas de la question, y a-t-il une morale démoniaque, non ? C'est l'art, d'une certaine manière, peut dépasser l'homme. Et c'est souvent ce qui se voit, c'est que les artistes, je ne dis pas les très grands artistes, mais des artistes qui veulent être grands, veulent exprès une originalité qui quelquefois dépassera le point de vue humain. Alors il y aura comme un moment où il reste encore artistique, et puis un moment où il décline. Parce que le support humain n'existera plus. C'est vrai que le support humain doit toujours exister, aussi bien du fatuité que la durée. Et c'est ça que le philosophe regarde. Il essaie de comprendre ce support humain, tant du côté artistique que du côté moral. Il n'y a pas de morale en soi. Il n'y a pas du fatuité en soi. Il est toujours humain. C'est l'homme qui est artiste, c'est l'homme qui est moral. Alors, jusqu'où l'art peut-il être un art en soi? Jusqu'où le point de vue moral peut être en soi? Où le fatuité normal est humain? L'artiste. C'est pour ça que je prends l'exprès fatuité. Je ne prends pas le point de vue œuvre artistique. L'œuvre artistique est humaine. Vous êtes là en face de l'art qui vient perfectionner l'homme et qui le rend plus homme. Et il y a un moment où le fatuité le rend moins homme et où le fatuité l'emporte. Et ça, le philosophe doit être très sensible à ça. Et doit pouvoir voir exactement quand le fatuité va devenir insupportable pour l'homme. Et le fatuité peut arriver à détruire l'homme. Quand ce fatuité se développe pour lui-même. Alors là, vous avez tout le problème de la finalité qui joue. Qu'est-ce qui finalise le fatuité? Qu'est-ce qui finalise la durée? C'est l'homme. Je suis artiste pour l'homme. L'art est toujours pour l'homme. Est-ce que l'artiste peut se séparer de l'homme et dire « je suis artiste pour » pour moi. Et moi, je suis complètement immoral. Je veux voir jusqu'où ça tient. Mais il y a des limites. La finalité va jouer là. Et c'est très intéressant de découvrir la finalité dans l'art et la finalité dans la morale. La finalité dans l'art est quelquefois très cachée parce que l'artiste avant tout veut réaliser quelque chose. Alors la causalité formelle de l'aspect de la cause exemplaire domine pour l'artiste. Pas entièrement. Il y aura toujours un lien avec l'homme et avec la finalité de l'homme. Mais l'art est d'abord finalisé par la cause exemplaire. Et c'est là où on voit comment la causalité exemplaire peut être rivale de la finalité. Et ça se verra surtout en politique. Parce que, justement, en politique, le point de vue de l'activité politique, elle est faite du fatuité et de la durée. Et très facilement, l'activité politique, le fatuité va dominer, la cause exemplaire va dominer. Et alors, on verra à ce moment-là que le point de vue moral tendra à disparaître. Et il n'y aura plus que la causalité exemplaire qui voudra être tout. Et la causalité exemplaire a-t-elle des limites ? Elle a des limites qui lui viennent de la matière. Et la causalité exemplaire domine la matière d'une façon assez remarquable. Et le lien avec la matière pourrait être extrêmement ténu dans la causalité exemplaire. La causalité exemplaire devrait par elle-même s'imposer. Mais c'est pas toujours vrai que la causalité matérielle est là quelquefois qui nous montre qu'on ne peut pas aller plus loin. On serait en danger, ça ne tiendrait plus. Oui, tous ces problèmes-là sont présents au point de vue philosophique. Est-ce que la causalité finale pour l'artiste n'est pas en premier lieu une causalité exemplaire ? L'œuvre d'art se tient par elle-même. Ah, alors là, vous faites une distinction entre l'art qui reste artisanal pour l'homme et l'art qui est l'art lui-même. L'art, on dira l'art des beaux-arts, c'est-à-dire un art qui se finalise lui-même sans l'homme. Est-ce possible ? Un art qui se finalise lui-même sans l'homme, ça c'est un très gros problème pour la philosophie de l'art. Mais il faut le toucher pour découvrir jusqu'où le point de vue moral pénètre, jusqu'où le point de vue du fatueré domine. Il y a des luttes quelquefois entre le fatueré et la durée, et quelquefois il y a des luttes très très fortes entre les deux. Ça se voit dans les ménages, où on a un homme qui est fait pour le fatueré et l'épouse pour la durée. Et toutes les luttes familiales viennent de là, très souvent. Parce que les intérêts de la durée et du fatueré sont distincts.